Cambridge Assessment International Education. Cambridge Advanced Subsidiary Level, November 2025 Examination in French. Paper 1. Listening.
Question 1 à 8. Écoutez ces quatre enregistrements. Vous allez entendre chaque enregistrement deux fois. Il y a une pause après chaque enregistrement. Puis, pour chaque question, cochez la bonne case A, B, C ou D. Cochez une seule case pour chaque question. Enregistrement 1. Venez fêter le nouvel an à Vincennes. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions.
Connu pour ses plages, sa cathédrale et ses hivers doux, la ville de Vincennes vous invite à venir fêter le nouvel an sur la place de la Liberté, en plein centre-ville. Il est temps de penser à s'amuser un peu. C'est bon pour le moral. Rendez-vous à partir de 22h pour fêter ensemble la nouvelle année. Avant minuit, profitez des nombreux événements de fin d'année en ville. Le musée, par exemple, ouvre ses portes gratuitement de 19h à 23h pour une expérience originale. Mais attention, réservation en ligne obligatoire. Le nombre de places est limité.
Écoutez de nouveau l'enregistrement.
Connu pour ses plages, sa cathédrale et ses hivers doux, la ville de Vincennes vous invite à venir fêter le nouvel an sur la place de la Liberté, en plein centre-ville. Il est temps de penser à s'amuser un peu. C'est bon pour le moral. Rendez-vous à partir de 22h pour fêter ensemble la nouvelle année. Avant minuit, profitez des nombreux événements de fin d'année en ville. Le musée, par exemple, ouvre ses portes gratuitement de 19h à 23h pour une expérience originale. Mais attention, réservation en ligne obligatoire. Le nombre de places est limité.
Enregistrement 2. Souad parle de sa vie. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour Souad. Parle-moi de ta vie quand tu étais étudiante en France.
J'étais une bonne élève et j'ai choisi les études médicales après mon bac. Originaire de Paris, je suis allée à l'université de Montpellier, où j'ai obtenu mon diplôme. La première année était dure. Je recevais une bourse, mais après 6 mois d'études, j'ai commencé à travailler dans un bistrot.
Alors pourquoi as-tu quitté la France ?
Le travail d'un médecin est intéressant et j'appréciais le contact avec mes patients. Néanmoins, après 10 ans, J'étais prête pour de nouvelles expériences. Je suis donc partie en vacances au Canada. Une fois arrivée ici, j'ai immédiatement su que je voulais m'y établir.
Écoutez de nouveau l'enregistrement. Bonjour, Souad. Parle-moi de ta vie quand tu étais étudiante en France.
J'étais une bonne élève et j'ai choisi les études médicales après mon bac. Originaire de Paris, je suis allée à l'université de Montpellier où j'ai obtenu mon diplôme. La première année était dure. Je recevais une bourse, mais après 6 mois d'études, j'ai commencé à travailler dans un bistrot.
Alors pourquoi as-tu quitté la France ?
Le travail d'un médecin est intéressant et j'appréciais le contact avec mes patients. Néanmoins, après 10 ans, j'étais prête pour de nouvelles expériences. Je suis donc partie en vacances au Canada. Une fois arrivée ici, j'ai immédiatement su que je voulais m'y établir.
Enregistrement 3. Un collectif crée une maison commune. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions.
Kylian, parlez-moi de votre collectif.
Nous sommes un groupe de 7 jeunes réunis par notre désir de vivre ensemble en contribuant de notre mieux à la création d'une société égalitaire, solidaire, mais surtout et avant tout écologique. Nous sommes en train de créer une maison commune dans le nord du pays.
Et le projet avance ?
Nous avons fini la rénovation d'un grand bâtiment situé en pleine campagne, à 5 minutes d'un petit village, mais quand même à proximité d'une gare internationale. Nous aimerions habiter cette maison avec ceux qui partagent nos valeurs. Notre maison sera un lieu de vie autonome où nous cultiverons nos propres légumes. Écoutez de nouveau l'enregistrement.
Kylian, parlez-moi de votre collectif.
Nous sommes un groupe de 7 jeunes réunis par notre désir de vivre ensemble en contribuant de notre mieux à la création d'une société égalitaire, solidaire, mais surtout et avant tout écologique. Nous sommes en train de créer une maison commune dans le nord du pays.
Et le projet avance ?
Nous avons fini la rénovation d'un grand bâtiment situé en pleine campagne, à 5 minutes d'un petit village, mais quand même à proximité d'une gare internationale. Nous aimerions habiter cette maison avec ceux qui partagent nos valeurs. Notre maison sera un lieu de vie autonome où nous cultiverons nos propres légumes. Enregistrement 4. Théo, jeune écrivain. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions.
À l'âge de 17 ans, Théo a annoncé son intention de devenir écrivain. Son père et son prof l'ont encouragé. À cette époque, son copain, Pierre, se moquait de lui. Sa grand-mère lui a offert un nouvel ordinateur pour qu'il puisse commencer à écrire son premier livre qui a été publié il y a 2 mois. Les ventes de son premier roman sont lentes. Théo a du mal à cacher sa déception, mais il essaie de rester optimiste. Cependant, Théo a prouvé qu'avec le soutien des proches, on peut démarrer une carrière.
Écoutez de nouveau l'enregistrement.
À l'âge de 17 ans, Théo a annoncé son intention de devenir écrivain. Son père et son prof l'ont encouragé. À cette époque, son copain, Pierre, se moquait de lui. Sa grand-mère lui a offert un nouvel ordinateur pour qu'il puisse commencer à écrire son premier livre qui a été publié il y a 2 mois. Les ventes de son premier roman sont lentes. Théo a du mal à cacher sa déception, mais il essaie de rester optimiste. Cependant, Théo a prouvé qu'avec le soutien des proches, on peut démarrer une carrière.
Questions 9 à 14. Vous allez entendre 6 personnes parler de l'environnement. Vous allez entendre l'enregistrement 2 fois. Pour chaque personne, choisissez dans la liste A à H l'idée qui correspond à ce que dit la personne. Indiquez votre réponse en écrivant la bonne lettre A à H sur la ligne. Utilisez chaque lettre une seule fois. Sur les 8 lettres, il y en a 2 dont vous n'aurez pas besoin. Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les phrases. Je m'appelle Brahim. Je ne suis pas plus écolo que certains, mais j'essaie de faire des gestes accessibles. Au bureau, nous essayons de réduire notre consommation d'eau en attendant que le lave-vaisselle dans la salle de repos soit plein avant de le mettre en marche. Mais pour moi, le plus important, c'est d'acheter les produits locaux. Importer des fruits exotiques de l'autre bout du monde, à quoi ça sert?
Bonjour, je m'appelle Assia. À mon avis, au lieu de proposer sans cesse de nouvelles lois en matière de climat, notre gouvernement ferait mieux d'évaluer sa politique climatique en la confrontant avec la réalité. Le gouvernement devrait mettre l'accent sur la mise en place de mesures concrètes face à l'urgence climatique. Fixer des objectifs toujours plus ambitieux et impossibles à réaliser, c'est inutile.
Bonjour. Je m'appelle Sarah. Ce ne sont pas des lois qui vont changer nécessairement les choses.
Je pense que tout le monde a son rôle à jouer, y compris les jeunes, parce qu'il s'agit de notre avenir à tous. Quant à moi, je fais attention à ce que j'achète. J'évite les produits jetables, mais acheter des aliments, par exemple, qui ne sont pas dans des emballages plastiques, ce n'est pas forcément facile.
Moi, je suis Christophe. Il y a une multitude de petits gestes que l'on peut faire à la maison pour contribuer à protéger l'environnement. Il faut bien sûr prendre une douche au lieu d'un bain. Je fais cela depuis quelques années. Je garde une carafe dans le frigo pour toujours avoir de l'eau fraîche à portée de main. J'évite ainsi de laisser couler l'eau du robinet. Je m'appelle Kevin. Il ne faut pas oublier que de nombreux produits chimiques sont nocifs pour les humains, les animaux et les plantes. Chez moi, pour nettoyer, j'utilise de préférence des produits naturels tels que le vinaigre. Il faut bien lire les étiquettes quand on est au supermarché et éviter, autant que possible, les produits toxiques. D'ailleurs, il y a de nombreux produits d'entretien bio sur le marché.
Et moi, je m'appelle Louise. Je suis plutôt pessimiste à propos du changement climatique. En fait, c'est un peu tard, parce que ça fait quelques dizaines d'années que l'on est conscient que notre système économique et notre industrie ne sont pas compatibles avec la protection de l'environnement. Pourtant, l'engagement des jeunes pour protéger le climat me donne de l'espoir pour l'avenir.
Écoutez de nouveau l'enregistrement. Je m'appelle Brahim. Je ne suis pas plus écolo que certains, mais j'essaie de faire des gestes accessibles. Au bureau, nous essayons de réduire notre consommation d'eau en attendant que le lave-vaisselle dans la salle de repos soit plein avant de le mettre en marche. Mais pour moi, le plus important, c'est d'acheter les produits locaux. Importer des fruits exotiques de l'autre bout du monde, à quoi ça sert?
Bonjour, je m'appelle Assia. À mon avis, au lieu de proposer sans cesse de nouvelles lois en matière de climat, notre gouvernement ferait mieux d'évaluer sa politique climatique en la confrontant avec la réalité. Le gouvernement devrait mettre l'accent sur la mise en place de mesures concrètes face à l'urgence climatique. Fixer des objectifs toujours plus ambitieux et impossibles à réaliser, c'est inutile.
Bonjour, je m'appelle Sarah. Ce ne sont pas des lois qui vont changer nécessairement les choses. Je pense que tout le monde a son rôle à jouer, y compris les jeunes, parce qu'il s'agit de notre avenir à tous. Quant à moi, je fais attention à ce que j'achète. J'évite les produits jetables, mais acheter des aliments, par exemple, qui ne sont pas dans des emballages plastiques, ce n'est pas forcément facile.
Moi, je suis Christophe. Il y a une multitude de petits gestes que l'on peut faire à la maison pour contribuer à protéger l'environnement. Il faut bien sûr prendre une douche au lieu d'un bain. Je fais cela depuis quelques années. Je garde une carafe dans le frigo pour toujours avoir de l'eau fraîche à portée de main. J'évite ainsi de laisser couler l'eau du robinet. Je m'appelle Kevin. Il ne faut pas oublier que de nombreux produits chimiques sont nocifs pour les humains, les animaux et les plantes. Chez moi, pour nettoyer, j'utilise de préférence des produits naturels tels que le vinaigre. Il faut bien lire les étiquettes quand on est au supermarché et éviter, autant que possible, les produits toxiques. D'ailleurs, il y a de nombreux produits d'entretien bio sur le marché.
Et moi, je m'appelle Louise. Je suis plutôt pessimiste à propos du changement climatique. En fait, c'est un peu tard, parce que ça fait quelques dizaines d'années que l'on est conscient que notre système économique et notre industrie ne sont pas compatibles avec la protection de l'environnement. Pourtant, l'engagement des jeunes pour protéger le climat me donne de l'espoir pour l'avenir.
Question 15 à 20. Vous allez entendre un reportage et lire un résumé de ce reportage. Vous allez entendre l'enregistrement deux fois. Pour chaque blanc, 15 à 20, choisissez l'option qui convient le mieux dans le résumé. Indiquez votre réponse en cochant la case appropriée A, B ou C. Cochez une seule case pour chaque question. Vous avez maintenant une minute pour lire le résumé et les options.
Lara est née dans un petit village à la campagne. Elle ne voulait pas travailler avec des enfants ou dans un bureau. Elle savait dès son enfance qu'un emploi en plein air serait idéal pour elle. Après avoir fini sa scolarité à l'âge de 18 ans, le bac en poche, elle a commencé à travailler dans une ferme. Hélas, l'année dernière, elle a été licenciée en raison de la récession. Elle est donc revenue habiter chez ses parents et elle s'est mise à chercher du travail. Au début, Lara était optimiste. Elle refusait la déprime, pensant vite trouver quelque chose d'équivalent. Aujourd'hui, elle est sans travail depuis presque un an et elle ne s'autorise plus à faire du sport, à aller au cinéma, à faire autre chose que de chercher à être embauchée. La semaine dernière, elle a posé sa candidature
pour un poste dans une petite ferme biologique à l'autre bout du pays.
Écoutez de nouveau l'enregistrement.
Lara est née dans un petit village à la campagne. Elle ne voulait pas travailler avec des enfants ou dans un bureau. Elle savait dès son enfance qu'un emploi en plein air serait idéal pour elle. Après avoir fini sa scolarité, à l'âge de 18 ans, le bac en poche, elle a commencé à travailler dans une ferme. Hélas, l'année dernière, elle a été licenciée en raison de la récession. Elle est donc revenue habiter chez ses parents et elle s'est mise à chercher du travail. Au début, Lara était optimiste. Elle refusait la déprime, pensant vite trouver quelque chose d'équivalent. Aujourd'hui, elle est sans travail depuis presque un an et elle ne s'autorise plus à faire du sport, à aller au cinéma, à faire autre chose que de chercher à être embauchée. La semaine dernière, elle a posé sa candidature pour un poste dans une petite ferme biologique à l'autre bout du pays.
Questions 21 à 30. Vous allez entendre une interview avec Gabriel, bénévole chez Bibliothèque de rue. Vous allez entendre l'interview deux fois. Choisissez pour chaque question la réponse appropriée en cochant la bonne case A, B ou C. Cochez seulement une case pour chaque question. Vous avez maintenant une minute pour lire les questions.
Gabriel, bonjour. Tu es animateur d'une bibliothèque de rue. Parle-moi un peu, s'il te plaît, de cette bibliothèque.
Une bibliothèque de rue, c'est une bibliothèque temporaire. Chaque semaine, grâce à la générosité des gérants de magasins, nous installons des chaises et des petites tables dans un centre commercial. Nous amenons des livres et voilà, la bibliothèque est arrivée. Les enfants viennent nous voir avec leurs copains de quartier. Ils choisissent un livre et ils lisent. On ne force pas les enfants. C'est volontaire.
Quand est-ce que la bibliothèque est ouverte?
On voudrait bien ouvrir la bibliothèque plus souvent, mais pour l'instant, c'est tous les samedis de 14h à 17h, hors vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, elle est ouverte seulement les jeudis et vendredis de 14h à 17h. La bibliothèque est ouverte à tous et elle est gratuite.
Quel est le but de cette bibliothèque?
On facilite l'accès aux livres, bien sûr, mais l'objectif fondamental des bibliothèques de rue, c'est de combattre l'exclusion et d'encourager la rencontre entre personnes d'origine sociale différente. Les bibliothèques de rue s'installent soit dans les quartiers où il n'y a pas de bibliothèque, soit dans les communautés dans lesquelles les habitants n'ont pas l'habitude de fréquenter une bibliothèque. Elles existent aujourd'hui dans de nombreux pays. Les enfants sont souvent récupérés par leur maman, qui viennent nous parler et avec qui nous essayons de créer des liens.
Alors, Gabriel, les enfants lisent des livres, c'est tout?
Non, pas du tout. On aide les enfants du primaire et du secondaire à faire leurs devoirs. Un jour, un petit garçon m'a demandé de lire des poèmes qu'il avait écrits pour que je donne mon opinion. On joue à des jeux. Ou encore, des enfants veulent nous parler de leur journée, de leur famille. On voit généralement les mêmes enfants chaque semaine.
Est-ce que ce travail demande des compétences particulières?
Non. Il faut simplement être très patient. Et bien sûr, il faut être motivé.
Est-ce que l'organisation a des plans pour l'avenir?
On a l'intention de lancer une collecte d'argent. On voudrait acheter un bus. Un bus aménagé en salon de lecture nous permettrait d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions et de mettre à leur disposition un plus grand nombre de livres et de jeux. La lecture pourrait ainsi entrer dans la vie quotidienne d'un plus grand nombre de familles.
Et Gabriel, pourquoi t'es-tu engagé dans le bénévolat?
J'ai toujours voulu être actif sur le plan social. Et je fais du bénévolat depuis quelques années. Quand j'étais élève, je participais aux activités caritatives de mon établissement scolaire. Puis, il y a un an, j'ai intégré la bibliothèque de rue car je partage ses objectifs.
Et qu'est-ce que ce travail t'apporte?
En tant que bénévole, on dispose d'une grande liberté pour organiser les séances. Par ailleurs, il est très agréable de travailler avec des enfants. Ils ont le sourire en toute occasion. Ce qui me plaît, c'est leur spontanéité et aussi leur imagination débordante. C'est aussi une expérience vraiment enrichissante qui me donne le sentiment d'être utile. Pour les étudiants, comme moi, il est intéressant de faire la connaissance de personnes qui ont connu plein de choses, que ce soit des voyages ou des expériences. Je suis ravi de leur rendre service.
Gabriel, merci.
Écoutez de nouveau l'enregistrement.
Gabriel, bonjour. Tu es animateur d'une bibliothèque de rue. Parle-moi un peu, s'il te plaît, de cette bibliothèque.
Une bibliothèque de rue, c'est une bibliothèque temporaire. Chaque semaine, grâce à la générosité des gérants de magasins, nous installons des chaises et des petites tables dans un centre commercial. Nous amenons des livres et voilà, la bibliothèque est arrivée. Les enfants viennent nous voir avec leurs copains de quartier. Ils choisissent un livre et ils lisent. On ne force pas les enfants, c'est volontaire.
Quand est-ce que la bibliothèque est ouverte ?
On voudrait bien ouvrir la bibliothèque plus souvent, mais pour l'instant, c'est tous les samedis de 14h à 17h, hors vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, elle est ouverte seulement les jeudis et vendredis de 14h à 17h. La bibliothèque est ouverte à tous et elle est gratuite.
Quel est le but de cette bibliothèque ?
On facilite l'accès aux livres, bien sûr, mais l'objectif fondamental des bibliothèques de rue, c'est de combattre l'exclusion et d'encourager la rencontre entre personnes d'origine sociale différente. Les bibliothèques de rue s'installent soit dans les quartiers où il n'y a pas de bibliothèque, soit dans les communautés dans lesquelles les habitants n'ont pas l'habitude de fréquenter une bibliothèque. Elles existent aujourd'hui dans de nombreux pays. Les enfants sont souvent récupérés par leur maman qui viennent nous parler et avec qui nous essayons de créer des liens.
Alors, Gabriel, les enfants lisent des livres, c'est tout ?
Non, pas du tout. On aide les enfants du primaire et du secondaire à faire leurs devoirs. Un jour, un petit garçon m'a demandé de lire des poèmes qu'il avait écrits pour que je donne mon opinion. On joue à des jeux. Ou encore, des enfants veulent nous parler de leur journée, de leur famille. On voit généralement les mêmes enfants chaque semaine.
Est-ce que ce travail demande des compétences particulières ?
Non. Il faut simplement être très patient. Et bien sûr, il faut être motivé.
Est-ce que l'organisation a des plans pour l'avenir ?
On a l'intention de lancer une collecte d'argent. On voudrait acheter un bus. Un bus aménagé en salon de lecture nous permettrait d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions et de mettre à leur disposition un plus grand nombre de livres et de jeux. La lecture pourrait ainsi entrer dans la vie quotidienne d'un plus grand nombre de familles.
Et Gabriel, pourquoi t'es-tu engagé dans le bénévolat ?
J'ai toujours voulu être actif sur le plan social. Et je fais du bénévolat depuis quelques années. Quand j'étais élève, je participais aux activités caritatives de mon établissement scolaire. Puis, il y a un an, j'ai intégré la bibliothèque de rue car je partage ses objectifs.
Et qu'est-ce que ce travail t'apporte ?
En tant que bénévole, on dispose d'une grande liberté pour organiser les séances. Par ailleurs, il est très agréable de travailler avec des enfants. Ils ont le sourire en toute occasion. Ce qui me plaît, c'est leur spontanéité et aussi leur imagination débordante. C'est aussi une expérience vraiment enrichissante qui me donne le sentiment d'être utile. Pour les étudiants, comme moi, il est intéressant de faire la connaissance de personnes qui ont connu plein de choses, que ce soit des voyages ou des expériences. Je suis ravi de leur rendre service.
Gabriel, merci.
Questions 31 à 40. Vous allez entendre Jean-Paul, propriétaire du château de Cherny. Vous allez entendre l'enregistrement deux fois. Choisissez pour chaque question la réponse appropriée en cochant la bonne case A, B ou C. Cochez seulement une case pour chaque question. Vous avez maintenant une minute pour lire les questions. Mes origines familiales ne sont pas aristocratiques. Je suis issu d'une famille nombreuse et nous vivions à Toulouse. Mes parents travaillaient dur, mais hélas, l'argent qu'ils gagnaient n'était jamais suffisant. Pourtant, à l'âge de 30 ans, j'ai acheté un château. Je ne l'ai pas acheté parce que j'avais envie de vivre sans stress dans une grande maison à la campagne. Au contraire, je l'ai acheté parce que je suis conscient de l'importance de préserver notre patrimoine. L'histoire du château de Cherny est fascinante. Fondé au XVIIIe siècle par une famille aristocratique, le château était en très mauvais état quand le conseil municipal l'a racheté au début du XXe siècle. Le conseil municipal a commencé à le restaurer, mais n'a effectué que des réparations essentielles. Il voulait tout simplement s'assurer qu'il ne soit plus dangereux d'y entrer. La rénovation totale du bâtiment était hors budget. Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de me balader à Cherny avec ma famille. Déjà à cette époque, je rêvais de devenir un jour propriétaire de ce château. Une fois adulte, Alors que je travaillais dans l'informatique, j'ai appris que le conseil municipal cherchait à vendre le château. À l'âge de 30 ans, j'avais économisé une certaine somme d'argent, mais pas assez pour financer un tel achat. Heureusement, j'ai réussi à convaincre des banquiers de soutenir mon projet. Et en 2011, j'ai réussi à l'acquérir. Peu après, j'ai créé un groupe d'enthousiastes qui s'appelle les Amis de Cherny. À ce jour, ils contribuent énormément à la restauration, à l'entretien et à l'embellissement du bâtiment. L'entretien d'un monument historique, c'est une bataille constante. À plusieurs reprises, j'aurais pu tout abandonner. En plus, gérer une grande équipe demande du temps et de l'énergie. Aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus si préoccupé par l'état du bâtiment. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire. Cette année, après tous les travaux importants qu'on a dû effectuer, enfin, nous allons pouvoir mettre en place des visites organisées du château. Au cours de ces visites accompagnées, les fans d'histoire pourront entendre un guide diplômé expliquer l'histoire du monument et aussi expliquer le chemin qu'on a dû parcourir pour le restaurer. Par exemple, la réparation du donjon et de la toiture. Mon équipe a aussi mis en place une boutique vendant toutes sortes de produits du terroir, par exemple des terrines et des pâtés du village, dont le public pourra profiter après la visite, des jus de fruits venant de la ferme voisine pourront également être consommés sur place. Quant à l'importance de ce bâtiment pour la richesse culturelle de notre pays, impossible de la sous-estimer. En tant que propriétaire d'un château, je suis évidemment très conscient de la grande variété de biens qui constituent notre patrimoine. Quand je fais de la publicité pour le château, j'insiste sur le fait que la préservation d'un monument n'est pas seulement utile pour témoigner de l'histoire, mais elle est également cruciale pour le recrutement de personnel dans le tourisme, dans les petits commerces et dans la construction. Écoutez de nouveau l'enregistrement. Mes origines familiales ne sont pas aristocratiques. Je suis issu d'une famille nombreuse et nous vivions à Toulouse. Mes parents travaillaient dur, mais hélas, l'argent qu'ils gagnaient n'était jamais suffisant. Pourtant, à l'âge de 30 ans, j'ai acheté un château. Je ne l'ai pas acheté parce que j'avais envie de vivre sans stress dans une grande maison à la campagne. Au contraire, je l'ai acheté parce que je suis conscient de l'importance de préserver notre patrimoine. L'histoire du château de Cherny est fascinante. Fondée au XVIIIe siècle par une famille aristocratique, le château était en très mauvais état quand le conseil municipal l'a racheté au début du XXe siècle. Le conseil municipal a commencé à le restaurer, mais n'a effectué que des réparations essentielles. Il voulait tout simplement s'assurer qu'il ne soit plus dangereux d'y entrer. La rénovation totale du bâtiment était hors budget. Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de me balader à Cherny avec ma famille. Déjà à cette époque, je rêvais de devenir un jour propriétaire de ce château. Une fois adulte, alors que je travaillais dans l'informatique, j'ai appris que le conseil municipal cherchait à vendre le château. À l'âge de 30 ans, j'avais économisé une certaine somme d'argent, mais pas assez pour financer un tel achat. Heureusement, j'ai réussi à convaincre des banquiers de soutenir mon projet. Et en 2011, j'ai réussi à l'acquérir. Peu après, j'ai créé un groupe d'enthousiastes qui s'appelle « Les Amis de Cherny ». À ce jour, ils contribuent énormément à la restauration, à l'entretien et à l'embellissement du bâtiment. L'entretien d'un monument historique, c'est une bataille constante. À plusieurs reprises, j'aurais pu tout abandonner. En plus, gérer une grande équipe demande du temps et de l'énergie. Aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus si préoccupé par l'état du bâtiment. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire. Cette année, après tous les travaux importants qu'on a dû effectuer, enfin, nous allons pouvoir mettre en place des visites organisées du château. Au cours de ces visites accompagnées, les fans d'histoire pourront entendre un guide diplômé expliquer l'histoire du monument et aussi expliquer le chemin qu'on a dû parcourir pour le restaurer. Par exemple, la réparation du donjon et de la toiture. Mon équipe a aussi mis en place une boutique vendant toutes sortes de produits du terroir, par exemple des terrines et des pâtés du village, dont le public pourra profiter après la visite. Des jus de fruits venant de la ferme voisine pourront également être consommés sur place. Quant à l'importance de ce bâtiment pour la richesse culturelle de notre pays, impossible de la sous-estimer. En tant que propriétaire d'un château, je suis évidemment très conscient de la grande variété de biens qui constituent notre patrimoine. Quand je fais de la publicité pour le château, j'insiste sur le fait que la préservation d'un monument n'est pas seulement utile pour témoigner de l'histoire, mais elle est également cruciale pour le recrutement de personnel dans le tourisme, dans les petits commerces et dans la construction. Vous avez maintenant 6 minutes pour recopier vos réponses sur la feuille de réponse. Suivez les instructions indiquées sur la feuille de réponse.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
L'épreuve est terminée.
This is the end of the examination.